Oshino hocha la tête et retourna à la biographie de Beethoven. Le célèbre musicien était un homme plein d'arrogance, qui avait une confiance absolue en son propre talent et ne faisait aucun effort pour flatter la noblesse. Convaincu que la seule chose respectable et la plus sublime en ce monde était l'art et l'expression juste des émotions, il considérait que le pouvoir ou la richesse avaient pour seule fonction de servir l'art. Haydn, lui, quand il était pensionnaire chez un mécène noble, et il fut pensionnaire la majeure partie de sa vie, dînait avec les domestiques. Haydn, qui était un homme simple et sans affectation, préférait pour sa part partager ses repas avec les serviteurs plutôt que de devoir supporter l'atmosphère formelle des dîners de la noblesse. En revanche, ce traitement humiliant plongeait Beethoven dans de violentes colères, au cours desquelles il jetait la vaisselle sur les murs, affirmant son droit à être traité en égal et à manger à la table des maîtres. Beethoven s'énervait facilement. Il était même très soupe au lait. Et une fois qu'il était en colère, il était difficile de le calmer. Il ne faisait rien non plus pour dissimuler ses idées politiques radicales. Et ce comportement s'accentua à mesure qu'il devenait sourd. En vieillissant, sa musique devint à la fois plus expansive et d'une plus grande intériorité. Beethoven est sans doute le seul musicien au monde dont la musique réunit ces deux qualités contradictoires. Mais cette disposition peu ordinaire eut un effet dévastateur sur sa vie. Tout le monde a ses limites, aussi bien physiques que mentales, et personne n'est fait pour supporter longtemps des situations aussi extrêmes. « C'est dur d'être un génie », se dit Oshino, profondément impressionné. Il reposa son livre au beau milieu de sa lecture et poussa un soupir. Il se rappelait le buste en bronze de Beethoven dans la salle de musique de son école et ses traits courroucés. Mais il ne savait pas qu'il avait eu une vie aussi difficile. « Pas étonnant qu'il ait l'air grincheux », se dit-il. « Je sais que j'ai peu de chance d'en devenir un, mais ça ne donne pas envie d'être un grand homme », conclut le jeune homme, après quoi il jeta un coup d'œil sur Nagata. Ce dernier regardait son livre de photos de mobilier japonais traditionnel tout en maniant un petit burin et un rabot imaginaire. Il lui suffisait de regarder des meubles pour que ses anciens gestes lui reviennent. « Lui, il deviendra peut-être un grand homme un jour », songea Oshino. « Les gens ordinaires ne pourraient jamais faire ce qu'il fait. Il m'impressionne tout de même. » À midi, d'autres visiteurs se présentèrent, deux dames d'âge mûr, et les deux compères sortirent prendre un peu l'air. Oshino avait prévu des petits pains pour leur déjeuner, et Nakata avait, comme d'habitude, emporté sa bouteille thermos remplie de thé vert grillé. Le jeune homme demanda à Oshima s'il pouvait déjeuner sur place. « Bien sûr !» répondit le bibliothécaire. « Vous pouvez vous installer sur la véranda et déjeuner devant le jardin. Et ensuite, venez prendre une tasse de café si vous voulez. N'hésitez pas, j'en ai préparé. »«
Merci beaucoup !» dit Oshino. « Cette bibliothèque est très cosy. »
Oshima sourit, rejeta sa mèche en arrière.
« C'est certainement différent d'une bibliothèque ordinaire. Le terme « cosy » convient bien, en effet. En tout cas, nous nous efforçons de mettre à la disposition de nos lecteurs un espace intime et agréable où ils peuvent lire en toute quiétude.
« Très sympathique ce garçon, » se dit Oshino. « Intelligent, propre sur lui. » Bien élevé et aimable de surcroît.
Il devait être gay, mais Oshino n'avait aucun préjugé envers les homosexuels. Tous les goûts sont dans la nature. Certains aiment parler avec des pierres, d'autres préfèrent coucher avec des hommes. Pourquoi pas? Une fois le déjeuner fini, Oshino se leva, bâilla en s'étirant, puis alla jusqu'au comptoir de l'accueil se faire offrir la tasse de café promise. Nakata, qui ne buvait pas de café, resta sur la véranda et but son thé en regardant les oiseaux aller et venir dans le jardin.
« Avez-vous trouvé des ouvrages qui vous intéressent ?» demanda Oshima.
« Ouais, je lis une biographie de Beethoven. C'est intéressant. Sa vie donne à réfléchir. »
Oshima hocha la tête.
« Oui, il a une vie plutôt difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. »«
C'est clair, mais à mon avis, il en est le seul responsable. » répliqua Oshino. Il n'a jamais fait la moindre concession et ne pensait qu'à lui. À lui et à sa musique. Pour lui,
Cela n'avait aucune importance de sacrifier tout le reste. Il devait être invivable. Moi, j'aurais eu envie de lui dire « Hé, Ludwig, lâche-nous un peu avec ta musique !» Je ne suis pas surpris que son neveu ait fini mentalement dérangé. Pourtant, sa musique est magnifique. Elle touche le cœur. C'est bizarre, non ?
Vous avez raison, dit Oshima.
Je me demande pourquoi il s'est fait une vie si dure. Il me semble qu'il aurait pu vivre un peu plus normalement.
Oshima faisait tourner un crayon entre ses doigts. En son temps, on pensait sans doute qu'il était important de manifester son ego. Ce genre d'attitude dans les époques précédentes, c'est-à-dire sous la monarchie absolue, aurait été considérée comme inconvenante et socialement déviante et aurait été sévèrement réprimée. Mais à partir du XIXe siècle, lorsque la bourgeoisie a accédé au pouvoir, il y a eu une brusque libération, une émancipation de l'individu. Les égaux ont pu s'exprimer dans de nombreux domaines. L'art, et particulièrement la musique, a pris cette vague de liberté de plein fouet. Tous les musiciens qui sont apparus après Beethoven, Berlioz, Wagner, Liszt, Schumann, ont mené des vies excentriques et mouvementées. À l'époque, l'excentricité constituait un modèle de vie idéale. C'était l'âge d'or du romantisme. Mais je pense que, pour les intéressés, ce genre de vie était parfois pénible. Vous aimez la musique de Beethoven, donc ?
Je ne la connais pas assez pour pouvoir dire que je l'aime, répondit honnêtement Oshino.
En fait, je ne l'ai même pratiquement jamais écouté. Mais j'aime bien le trio à l'Archeduc, pour piano, violon et violoncelle.
Moi aussi, j'aime bien ce morceau.
J'aime bien la version du Million Dollar Trio, reprit Oshino.
Personnellement, je préfère le groupe tchèque, le trio Souk. C'est bien équilibré. On a l'impression de sentir le vent traverser une steppe. Mais j'ai déjà entendu la version du Million Dollar Trio. Il y a une grande élégance dans le jeu de Rubinstein, Heifetz et Feuermann.
Dites, monsieur... Oshima, dit Oshino en regardant le nom inscrit sur la plaque posée sur le comptoir. Vous vous y connaissez en musique, vous, hein ?
Oshima sourit. Je n'irai pas jusque-là, mais j'aime bien la musique, c'est vrai. Et j'en écoute souvent quand je suis seul.
Je voudrais vous poser une question. À votre avis, est-ce que la musique a le pouvoir de transformer les gens ? Autrement dit, est-ce que le fait d'écouter une certaine musique à un moment particulier peut changer quelque chose en vous de façon radicale ?
Oshima fit oui de la tête.
Bien sûr, ça arrive.
Vous faites une expérience particulière et il se passe quelque chose en vous. Comme une réaction chimique, vous voyez. Ensuite, on examine les effets et on remarque que la température a augmenté de plusieurs degrés et que notre monde s'est élargi. J'ai déjà vécu cette expérience moi-même. C'est rare, mais ça arrive. C'est comme pour l'amour.
Oshino n'avait jamais fait l'expérience d'un amour aussi intense, mais cela ne l'empêcha pas d'acquiescer en hochant la tête. C'est important, vous ne croyez pas ? Dans nos vies, je veux dire.
J'en suis persuadé, répondit Oshima. Sans ce genre d'expérience, nos vies seraient sèches et dépourvues de sens. Comme disait Berlioz, si vous n'avez jamais lu Hamlet au cours de votre vie, c'est comme si vous l'aviez passé au fond d'une mine de charbon.
Au fond d'une mine de charbon ?
Bah, un jugement hyperbolique, bien digne du XIXe siècle. Mais
merci pour le café, dit Oshino. Je suis content d'avoir bavardé avec vous.
Oshima lui répondit par un grand sourire affable. Nakata et Oshino retournèrent à leurs livres jusqu'à l'heure de la visite guidée. Le vieil homme continua à regarder passionnément les photos de meubles en agitant machinalement les mains. Après les deux dames de midi, trois autres visiteurs étaient arrivés. Cependant, personne d'autre que Nakata et Oshino ne se présenta pour la visite.
Cela n'est pas gênant d'organiser cette visite seulement pour nous deux ? Je suis désolé de vous donner du travail supplémentaire, dit Oshino à Oshima.
Ne vous en faites pas. La directrice est toujours heureuse de faire le tour du propriétaire, ne serait-ce qu'à une seule personne.
À 2 heures précises, une belle quinquagénaire descendit l'escalier. Elle portait un tailleur bleu marine à la ligne stricte et des talons aiguilles noirs. Ses cheveux étaient attachés en arrière et on apercevait un fin collier en argent derrière le col largement ouvert de son chemisier. Une impression de raffinement et de bon goût, sans la moindre ostentation, émanait de sa personne.
« Bonjour, je m'appelle Saiki et je suis la directrice de cette bibliothèque. »
Après s'être ainsi présentée, elle sourit aimablement aux deux hommes et ajouta
« En fait, l'équipe se réduit à deux personnes, Monsieur Oshima, ici présent, et moi-même. »«
Enchanté, Oshino, » dit le jeune chauffeur.
« Je m'appelle Nakata et je viens de l'arrondissement de Nakano, »
dit le vieil homme son bonnet à la main. « Merci d'être venu de si loin, » dit Mademoiselle Saiki. Oshino avait frémi, mais la directrice ne semblait avoir prêté aucune attention particulière à la phrase de Nakata. Ce dernier, bien entendu, ne s'était pas rendu compte de sa bévue.
« Nous avons traversé un très grand pont, »
ajouta-t-il.
« Cette bibliothèque est magnifique, » intervint Oshino.
Si Nakata se mettait à parler du viaduc, cela risquait de traîner en longueur.
« Oui, le bâtiment a été construit au début de l'ère Meiji, par la famille Komura, pour servir de bibliothèque et de structure d'accueil aux artistes. Tous les représentants de l'intelligentsia de l'époque ont séjourné ici, et ce lieu fait partie des sites culturels importants de la ville de Takamatsu.
L'intelligence IA,
fit Nakata.
Je veux dire les artistes, écrivains, romanciers et poètes. Autrefois, les gens fortunés jouaient souvent le rôle de mécènes.
L'art n'était pas considéré comme un moyen de gagner sa vie.
Dans notre région, les Komura sont l'une des familles qui ont le plus encouragé et protégé les arts. Cette bibliothèque a toujours eu pour vocation de transmettre un patrimoine culturel historique aux générations futures.
Un patrimoine. Nakata sait ce que cela veut dire.
Intervint Nakata.
Cela prend du temps de construire un patrimoine.
Certes, dit Mademoiselle Saiki en souriant. On peut accumuler de l'argent, mais le temps, lui, ne peut pas s'acheter. Maintenant, je vous propose de me suivre au premier étage pour commencer notre visite.
Ils firent le tour des pièces du premier étage. Mademoiselle Saiki les renseigna sur les artistes célèbres qui avaient séjourné dans ces lieux et les œuvres qu'ils avaient laissées en souvenir. Le stylo noir de la directrice était, comme toujours, posé sur la table, dans la pièce qui lui servait de bureau dans la journée. Nakata examinait tous les objets un à un avec curiosité. Il n'écoutait pratiquement pas un mot des explications de leur guide. Le rôle de l'auditeur attentif, prêt à placer les exclamations appropriées au bon moment, revenait à Oshino, qui jetait de petits coups d'œil à son compagnon, frémissant à l'idée qu'il se mette à raconter sans prévenir ses histoires à dormir debout. Mais Nakata se contentait d'observer les lieux, et Mademoiselle Saiki ne paraissait pas se soucier de ce qu'il faisait. Elle leur montra tout ce qu'il y avait à voir dans la bibliothèque, avec un professionnalisme et une amabilité qui forcèrent l'admiration du jeune Oshino. La visite dura 20 minutes. Ensuite, les deux hommes remercièrent leur guide. Elle n'avait pas cessé de sourire pendant tout le temps de la visite, mais plus Oshino la regardait, moins il comprenait qui était cette femme.
« Elle nous regarde en souriant, » songea-t-il, « mais on dirait qu'elle ne nous voit pas. Ou plutôt, elle nous voit, mais elle voit autre chose en même temps. » Elle nous parle, mais en fait, elle pense à autre chose. Elle est d'une courtoisie et d'une affabilité parfaite. Quand on lui pose une question, elle répond clairement et aimablement. Mais elle a l'esprit complètement ailleurs. Pourtant, elle n'a pas l'air de trouver désagréable ce qu'elle fait. Elle remplit son rôle sans tricher et y trouve même un certain plaisir. Mais on dirait qu'elle est absente.
Les deux hommes retournèrent dans la salle de lecture, s'installèrent dans un canapé et se remirent à tourner les pages de leur livre en silence. Tout en feuilletant un nouvel ouvrage, Oshino pensait vaguement à Mademoiselle Saeki. Cette belle femme avait quelque chose de vraiment étrange, qu'il n'arrivait pas à définir. Il y renonça et se concentra à nouveau sur sa lecture. À 3 heures, Nakata se leva sans prévenir, avec une détermination inhabituelle chez lui. Il serrait son bonnet de montagne de toutes ses forces entre ses doigts.
« Hé, papy, où tu vas ?»
demanda Oshino à voix basse, mais le vieil homme ne lui répondit pas. Les lèvres serrées, il se dirigea à pas rapides vers l'entrée. Il avait laissé son sac par terre à ses pieds. Oshino referma son livre et se leva à son tour. Il se passait quelque chose d'anormal.
« Hé, attends-moi »
s'exclama-t-il. Puis, comprenant que Nakata n'avait aucune intention de l'attendre, il se précipita à sa suite sous le regard éberlué des autres lecteurs qui avaient tous levé le nez de leur livre. Le vieil homme tourna à gauche près de l'entrée et commença à gravir les marches sans marquer le moindre arrêt. En bas de l'escalier, une pancarte indiquait « Interdit à toute personne étrangère au service ». Mais il est vrai que Nakata ne savait pas lire. Les semelles de caoutchouc de ses tennis usés crissaient sur le parquet.
« Excusez-moi !»
Oshima se dressa derrière le comptoir, interpella Nakata de dos.
« Vous ne pouvez pas entrer !»
Mais Nakata ne parut même pas l'entendre. Oshino se mit à grimper l'escalier derrière Nakata.
« Écoute, papy, c'est interdit d'aller par là !»
Oshima avait quitté son comptoir et s'était lancé à leur suite. Le vieil homme s'engagea dans le couloir sans hésiter, pénétra dans le bureau. La porte était ouverte, comme toujours, et Mademoiselle Saeki se tenait assise derrière sa table, dos à la fenêtre. Elle était en train de lire un livre et, entendant un bruit de pas, leva la tête et regarda Nakata. Il s'avança jusqu'à la table, s'arrêta devant Mademoiselle Saeki, la regarda bien en face. Elle ne disait pas un mot. Oshino entra à son tour dans la pièce, suivi de près par Oshima.
« Hé, papy !»
fit Oshino en posant la main sur l'épaule de Nakata par derrière.
« Tu ne peux pas entrer ici comme ça, c'est interdit. Allez, viens, retournons en bas. »
« Nakata a quelque chose à vous dire !»
déclara le vieil homme à Mademoiselle Saeki.
« De quoi s'agit-il ? »
demanda celle-ci d'une voix posée.
« C'est au sujet de la pierre. De la pierre de l'entrée. »
La directrice de la bibliothèque contempla longuement le vieil homme sans mot dire. Ses yeux étaient incroyablement inexpressifs. Ensuite, elle cligna plusieurs fois des paupières, referma son livre et le posa sur la table, puis fixa à nouveau Nakata. Elle semblait indécise sur la réaction à avoir, mais elle lui adressa néanmoins un léger signe de tête. Puis elle regarda Oshino et Oshima.
« Auriez-vous la gentillesse de nous laisser seuls un moment ? » dit-elle. « Je dois parler à monsieur. Merci de refermer la porte derrière vous. »
Oshima hésita un instant, puis inclina la tête. Il prit doucement Oshino par le coude, l'entraîna dans le couloir avec lui et ferma la porte du bureau.
« Vous croyez qu'on peut les laisser seuls ?»
demanda Oshino. « Mademoiselle Saeki est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Laissons-la faire !» répondit Oshima en redescendant l'escalier avec Oshino.
« Il n'y a pas à s'inquiéter. Allons plutôt boire un café. »
« Avec Nakata, ça ne sert strictement à rien de s'inquiéter. C'est clair !»
dit Oshino en secouant la tête.